pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
C'est ici qu'a été retrouvé jeudi soir le corps d'un homme de 50 ans, envasé jusqu'à la taille.
Septembre 2016, France 3 Bretagne.
Commune d'Ilion, là où le Crémur, ce petit ruisseau se jette dans le Gouessant, non loin du pont Roland. Site qu'Yves-Marie Lelay, le coprésident de Halte aux Marées Vertes, connaît bien. C'est la même qu'il avait découvert fin juillet 2011, la dépouille d'un des 36 sangliers morts cet été-là sur la zone. Les rapports de l'ANSES et de l'INERIS avaient identifié comme hautement probable le décès des animaux par l'inhalation du gaz très toxique dégagé par les algues vertes en putréfaction, l'hydrogène sulfuré.
Cette surconcentration d'élevage, c'est terrible. Ça a des conséquences absolument mortifères sur notre santé.
Romane, du collectif RAFU, Résistance aux fermes-usines, Festival Les Résistantes, août 2025.
Moi, par exemple, je ne peux plus aller me baigner sur des plages à côté de chez moi parce qu'il y a des algues vertes et qu'il y a des risques de mort. Je ne peux plus aller me baigner dans des lacs à côté de chez moi parce qu'il y a des cyanobactéries. Et donc, pareil, les plages, elles sont fermées. À la baignade, il y a des plages dans le nord de la Bretagne où on retrouve du staphylocoque doré, de la salmonelle. Enfin, ça nous rend extrêmement malades. Au profit de l'agro-business, on va venir nuire complètement à la santé des riverains et des citoyens et des citoyennes de nos territoires, uniquement pour faire du profit.
Quand les algues vertes ont tué, le grand public a commencé à percevoir des dangers mortels de l'agro-industrie et des fermes-usines. Mais les algues vertes ne sont hélas que l'un des innombrables fléaux générés par l'agriculture industrielle.
L'État n'a pas respecté ses propres lois.
François, lui aussi membre de RAFU.
Il a fait en sorte d'ignorer les effets cumulés. On parlait des algues vertes et c'est une des répercussions les plus visibles. Il y en a bien d'autres, pas aussi visibles, de la concentration des élevages industriels et de la concentration en nitrate des masses d'eau.
Et au plus haut sommet de l'État, ça fait déjà bien longtemps qu'on sait que l'actuel modèle agro-industriel nous emmène tous à la mort.
Le haut commissariat à la stratégie et au plan dit dans les 25 ans, si on continue avec l'application des politiques publiques actuelles, on va dans le rouge pour l'ensemble des bassins versants. France Stratégie, le haut commissariat de la stratégie et du plan, auprès du Premier ministre, qui conclut que le système agro-industriel, entre autres, va dans le mur, et c'est ce qu'on dit depuis des années, et que cette impasse, on va taper dedans, taper dans le mur, parce que c'est pas tenable.
Janvier 2026, des experts de l'ONU déclarent la planète en faillite hydrique. Catastrophe essentiellement due au saccage de l'eau par l'agro-industrie, l'un des combats de RAFU.
On se bat pour un monde qui n'empoisonne pas les populations pour faire de l'argent. On se bat pour un monde où les gens ils peuvent vivre de leur travail, où les agriculteurs ne se suicident pas. On a entendu tout le temps dans les médias ce truc de distinction entre les écolos et les agriculteurs, comme si les normes environnementales c'était le gros problème. C'est faux. Le gros problème, c'est le fait que les agriculteurs ne peuvent pas vivre décemment de leur travail. Ils ne sont pas correctement rémunérés.
Salut les amis, c'est JBD pour Polémique, c'est la voix off.com et pour votre radio encore libre préférée. Août 2025, festival Les Résistantes, rencontre avec le collectif Résistance aux fermes-usines, où l'on va aussi parler de la mortelle maltraitance dont est victime un monde agricole moribond, et qui exprime régulièrement ses colères, avec Romane.
Bonjour.
Bonjour François.
Bonjour.
RAFU, donc Résistance aux fermes usines, vous êtes breton et bretonne ?
Oui absolument, moi j'habite en Bretagne depuis 5 ans, je m'y étais installée dans le cadre de mes études, et ce qui m'a marqué très vite quand je suis arrivée en Centre-Bretagne, c'est que j'allais me promener et je voyais des bâtiments d'élevage et je voyais pas d'animaux, partout. Très vite, du coup, je me suis aperçue qu'il y avait cette problématique de l'agro-industrie. Et puis aussi, très vite, j'ai rencontré des gens qui s'opposaient à l'extension d'un poulailler à Langoëlan. Du coup, je me suis investie dans cette lutte et c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans la lutte contre l'agro-industrie. Et aujourd'hui, je suis en formation moi-même pour devenir paysanne, pour pouvoir faire de la grande culture et de l'élevage en Bretagne. Voilà comment je suis arrivée à la lutte contre l'agro-industrie.
Effectivement, on voit des grands bâtiments et pas d'animaux et beaucoup de champs de maïs. François, breton aussi ?
Oui, je suis implanté en centre-Bretagne depuis pas mal de décennies.
Paysan ?
Non, je ne suis pas paysan. J'ai une formation plutôt bureau d'études, naturaliste, environnementale, cartographie. J'ai bossé en bureau d'études dans les énergies renouvelables et j'ai manié des études d'impact, j'ai vu des enquêtes publiques, j'ai vu des procédures juridiques et des choses comme ça. J'ai vu toute la machine administrative de l'intérieur. Il y a eu un petit choc à un moment, quoi.
La mort d'un jogger d'une cinquantaine d'années à Lyon la semaine dernière relance le dossier des algues vertes.
Aucune autopsie n'a d'ailleurs été diligentée. Pour les magistrats, ce père de quatre enfants aurait fait un malaise cardiaque en essayant de sauver son chien.
Quand les algues vertes ont tué, le grand public a commencé à percevoir des dangers mortels de l'agro-industrie et des fermes-usines. Mais les algues vertes ne sont hélas que l'un des innombrables fléaux générés par l'agriculture industrielle.
Cette question-là, elle a ses pics médiatiques, des moments où à la fois la presse et l'opinion publique, à l'occasion d'une compréhension d'un effet assez dramatique, là, la mort d'une personne, hein, d'un jogger sur la plage, à cette occasion-là, il y a eu une prise de conscience qui s'est faite, mais ce sujet de la charge en nitrate, en fait, c'est une des répercussions de l'agro-industrie, le fait d'intensifier l'élevage en Bretagne. Alors on peut donner quelques chiffres en termes d'élevage quand on parle d'élevage intensif, de ferme-usine. Si on parle des élevages de porcs au niveau national, la Bretagne, les quatre départements bretons, représente 54% des élevages de porcs à eux tout seuls, forte concentration. Pour les volailles, on est un petit peu en dessous des 50%, on est à 43%, quelque chose comme ça. Donc la Bretagne occupe une place très particulière en termes de concentration d'élevage. Alors quand on parle des élevages, on a toute une chaîne en réalité qui est derrière, c'est-à-dire que l'élevage, c'est la partie visible. Je vais dire un mot choquant, la matière animale est présente. Je dis volontairement ce mot-là.
Parce qu'on parle aussi de ferme-usine.
Ferme-usine et le process des fermes-usines traite la chose de cette façon-là. C'est la matière animale qui rentre, qui sort, qui est ensuite abattue et qui va rentrer dans tout un système agroalimentaire industriel, quoi.
Vous avez d'ailleurs une carte et un document très explicite qui illustre ce que tu viens de dire sur le fait que la Bretagne est particulièrement impactée par cette problématique de l'agro-industrie. Quand on regarde cette carte de France de loin, en fait, on voit que toute la Bretagne est piquetée de rouge, tout en rouge, et après il y a quelques points épars sur le reste du territoire. Alors vous êtes gâté, hein.
Une forte concentration et il y a une grande diversité de ce que sont les fermes-usines. Sur cette carte, on va trouver les élevages, bien sûr, les abattoirs, les usines de pesticides, les usines d'aliments, les ports industriels qui importent du soja, le transport qui se fait de toutes ces matières. Voilà, les usines d'engrais, on a l'ensemble de cette chaîne, de cette infrastructure agro-industrielle présente sur le territoire breton, concentrée au travers de filiales, de groupements, de coopératives qui, elles, se concentrent également. Et au fur et à mesure des années, on a vu aussi cette structuration capitaliste, en fait, de sociétés qui contiennent d'autres sociétés et qui tiennent l'ensemble de la filière. J'oublie pas le système financier, très impliqué dans ce système-là également. On peut parler du Crédit Agricole.
Et de ce syndicat, oui, il paraît que c'est un syndicat agricole majoritaire qui est la FNSEA. Et quand on dit autant de pouvoir économique et industriel, ça veut dire aussi du pouvoir politique.
Oui, bah absolument. Ces dernières années, dans la construction des politiques publiques agricoles, on a bien vu la coopération exceptionnelle entre ce syndicat majoritaire qu'est la FNSEA, qui est dirigé par Arnaud Rousseau, qui ne représente en rien les agriculteurs, et son lien avec le gouvernement. Il rentre dans toutes les instances, et ça se voit à tous les niveaux des instances de l'État, puisque ça va des députés, du ministère de l'Agriculture, jusqu'aux conseils municipaux dans nos petites communes. Donc en fait, il y a une ingérence et une co-gestion par ce syndicat majoritaire qui n'est finalement pas si représentatif que ça de toutes les politiques publiques. Et en fait, c'est terrible. Ça a des conséquences absolument mortifères sur notre santé. Cette surconcentration d'élevage, la réalité, c'est que moi, par exemple, je ne peux plus aller me baigner sur des plages à côté de chez moi parce qu'il y a des algues vertes et qu'il y a des risques de mort. Je ne peux plus aller me baigner dans des lacs à côté de chez moi parce qu'il y a des cyanobactéries. Et donc, pareil, les plages, elles sont fermées. À la baignade, il y a des plages dans le nord de la Bretagne où on retrouve du staphylocoque doré, de la salmonelle. Enfin, ça nous rend extrêmement malades. Et la réalité, c'est que au profit de ce syndicat majoritaire et de l'agro-business, on va venir nuire complètement à la santé des riverains et des citoyens et des citoyennes de nos territoires, uniquement pour faire du profit.
D'ailleurs aussi, il a mentionné la santé des exploitants et exploitantes agricoles qui sont peut-être les premiers et premières impactés par l'usage de produits chimiques très dangereux qui donnent du Parkinson, du cancer.
Ah mais absolument, et c'est encore pire que ça. C'est-à-dire qu'au-delà d'autoriser les exploitants et exploitantes agricoles à utiliser des produits qui sont extrêmement néfastes pour leur santé, le gouvernement n'arrête pas de faire des petits pics ou de tenir des discours pour lever les contraintes à leur métier, essayer de leur faciliter la vie, mais en fait, sans prendre jamais à bras-le-corps les problèmes essentiels pour les agriculteurs qui sont le revenu des agriculteurs. Dans les derniers épisodes de colère agricole qu'il y a eu en 2024, on a entendu tout le temps dans les médias ce truc de distinction entre les écolos et les agriculteurs, comme si les normes environnementales, c'était le gros problème. En fait, aujourd'hui, c'est faux. Le gros problème, c'est le fait que les agriculteurs ne peuvent pas vivre correctement et décemment de leur travail. Et ils ne sont pas correctement rémunérés. Et ça pose des questions assez dramatiques, parce que l'alimentation, c'est quand même une des bases de notre survie, la base de la société. Et donc, ça pose des questions sociales aussi, de qu'est-ce qu'on a envie de manger, comment on a envie de manger, quelles relations on a envie d'entretenir aux personnes qui produisent de l'alimentation pour nous. Quand ces agriculteurs ils vendent des produits à des coopératives qui ensuite revendent à la grande distribution, la répartition de la valeur dans cette chaîne, elle se fait au détriment de l'agriculteur. Sur les lentilles, par exemple, ils vont être payés 1200 euros la tonne en bio. Et nous, les consommateurs, on va pouvoir acheter jusqu'à 6-7 euros le kilo. Donc 6000, 7000, toute la marge se fait par la grande distribution et par les coopératives. C'est pour ça aussi qu'on s'attaque au système de l'agro-industrie et aux fermes-usines, c'est qu'on veut remettre le producteur ou la productrice d'alimentation au centre et au cœur de notre société et de notre petit mode de production alimentaire.
Yao, à la terre on obéit, yao, paysan nourrit le pays, yao, j'ai les poches bitumes, si je fais des légumes pour ken le bitume, mais oui, yao, ce qu'on apporte dans la zone, yao, c'est fort, c'est les bonnes ondes, yao, regarde, ouais, j'ai la forme, forme ta montée, faut que tu sois farmer, car c'est trop vrai, la ville a besoin de bergers, de retrouver ses maraîchers, béton t'es mauvais, quel gâchis t'y a décollé, la pinède ratatine, est cogné par un vieux projet, tu vois, c'est fou, 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 on fait les balles, bientôt ça sera nous, que tu l'inviteras, car ma clique kick. Personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça sent le fumier. À nous les terres bétonisées. Basta la bad bouffe qui nique tout. Basta la bad bouffe chimique bouffe. Basta la malbouffe. Basta la malbouffe. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça sent le fumier. À nous les terres bétonisées. Basta la bad bouffe qui nique tout. Basta la bad bouffe chimique bouffe. Basta la malbouffe. Basta la malbouffe. Big up à toutes les bandes des terres qui s'organisent. Vive le rap contestataire et vive le travail de la terre.
Le rap paysan marseillais de la bande organisée, contre l'agro-industrie, contre la malbouffe, des combats aussi menés par le collectif RAFU, résistance aux fermes-usines. On en parle avec deux de ses membres, Roman et François. La France agricole de 2026 va très très mal. Catastrophe écologique, bien sûr, et aussi catastrophe sociale. Sans même parler de la mortelle menace du Mercosur, l'agro-industrie a déjà quasiment tué la paysannerie pour la remplacer par des exploitants agricoles endettés, esclavagisés par des banques, des multinationales, groupes industriels, coopératives, grandes distributions, etc. Quelques chiffres un peu à la louche pour illustrer le désastre. En 2026, il ne reste en France que 380 000 exploitants agricoles, essentiellement des hommes dont plus de la moitié ont 50 ans et dont beaucoup seront bientôt retraités, et qui laissent après eux des terres et des fermes hors de prix que des jeunes ne peuvent pas racheter pour s'installer et prendre la relève. Par contre, ces terres, l'agro-industrie, elle, a amplement les moyens de les acquérir pour en faire de gigantesques fermes-usines. Catastrophe sociale et économique, en 2026, 17% des exploitants agricoles vivent avec moins de 1200 euros par mois sous le seuil de pauvreté. 60% pourraient avoir droit au RSA. Et la pauvreté, voire la misère, touche encore plus les femmes que les hommes. Autre chiffre, 80% des exploitants estiment ne pas tirer de revenus décents de leur travail, ce qui impliquerait que 20% d'exploitants agro-industriels, comme par exemple messieurs Duplon ou Rousseau, eux, gagnent très très bien leur vie, Romane.
Ils ne sont pas agriculteurs, ils sont soit politiques, soit ils sont chefs d'entreprise, de multinationales. Ils décident d'avoir une légitimité agricole parce qu'ils possèdent des terres. Mais ces gens-là, ils ne sont pas agriculteurs, ce n'est pas eux qui produisent de l'alimentation. Donc ils ne sont pas légitimes à représenter l'intérêt des agriculteurs et des agricultrices. Comment ils peuvent comprendre la réalité du métier ? Moi, dans les exploitations dans lesquelles je travaille en Bretagne, c'est un combat du quotidien, la survie économique. Quand il y a des animaux malades, en fait, on n'a pas forcément l'argent pour payer des médicaments pour nos animaux qu'on voit du coup crever. La réalité, c'est aussi ça, que des gens qui sont installés depuis 5, 6 ans, qui sont dans des modèles vertueux, en fait, aujourd'hui, se posent la question de continuer. Il y en a beaucoup, des agriculteurs installés depuis pas longtemps, qui réfléchissent à la poursuite de leur activité. Et il y en a vraiment beaucoup. Pour moi, le fait qu'il y en ait beaucoup qui aient autant de difficultés, ça montre bien que c'est un problème systémique et politique. Aujourd'hui, si les gros agriculteurs représentants de la FNSEA, etc., ils s'en sortent, c'est aussi parce qu'il y a des subventions publiques massives. L'agriculture, aujourd'hui, elle dépend des subventions publiques. Et du coup, en termes de politique publique, on pourrait choisir ce qu'on veut défendre. Aujourd'hui, on ne défend pas l'agriculture biologique, ou en tout cas engagée dans des pratiques éco-responsables et de revenus. On défend de la production massive en système usine pour exporter à l'autre bout du monde. Est-ce que c'est vraiment ça le modèle agricole qu'on souhaite ?
Bon voilà, il y a aussi cet argument. Oui, mais l'autonomie alimentaire, et puis nous nourrissons le monde.
C'est encore une fois, c'est un des discours qui nous est tout le temps rabâché. L'élevage français, il n'est pas autonome. C'est faux, cette fausse souveraineté alimentaire. Si on ne peut avoir autant d'élevage au même endroit, c'est parce qu'on importe massivement de l'alimentation de l'autre bout du monde et qu'on exporte massivement des déjections animales, qu'on exporte massivement les produits. Donc en fait, on n'est absolument pas souverain. Ce système-là, il est complètement dépendant des importations de l'autre bout du monde. Et puis c'est pareil avec le Mercosur. Mais si on voulait absolument défendre le droit des agriculteurs et des agricultrices français et françaises, eh ben, on arriverait à produire un modèle d'élevage où on a toutes les ressources en France. Et c'est pour ça que nous, sur les fermes-usines, c'est vraiment le lien au sol de l'exploitation qui est important.
François, quand on parle ferme-usine, généralement, on parle effectivement de pollution, de répercussions sur la qualité de l'eau. Quand on a commencé à travailler sur le sujet des fermes-usines, on s'est dit, le sujet, il ne s'arrête pas à la question des pollutions, des répercussions sur l'environnement. Il est beaucoup plus large que ça. On a travaillé sur une définition des fermes-usines. Puisque le mot il n'existe pas officiellement dans le code de l'environnement, on ne le retrouve pas, hein. On retrouve installation industrielle, élevage, etc. Donc on a travaillé sur la définition de ce que sont les fermes-usines et on a défini sur trois axes. Le lien avec le sol, c'est la capacité sur un territoire d'avoir une certaine autonomie de ce qui rentre dans l'exploitation agricole. Donc ce lien avec le sol, il est rompu dans le système des fermes-usines, puisqu'on a du soja qui arrive d'Amérique du Sud, des excréments qui sont obligés d'être sortis du territoire de Bretagne, parce qu'on est en hypersaturation de production de déjection avec toute cette concentration. À partir du moment où on va refaire le lien avec le sol, on va regagner une réelle cohérence entre les consommations locales, les circuits courts qui peuvent se faire au niveau local, et on va redonner de la marge. Le revenu paysan va rester sur les territoires où il est produit. Aujourd'hui, les grands groupes industriels de l'agroalimentaire, ils captent le revenu paysan. Il fragilise les paysans, les paysannes, en captant les revenus qui leur reviennent normalement. que ce soit le système bancaire, que ce soit les coopératives. C'est très amusant de voir sur les sites internet de ces coopératives, ils proposent des services. Ils sont toujours à proposer des services. Et bon nombre de représentants de ces coopératives arrivent dans les fermes pour proposer un nouveau produit, etc. Et à chaque fois, c'est un nouveau matériel, un nouveau système, etc., qui va théoriquement améliorer la vie de la personne qui travaille sur la ferme. En réalité, ils captent du revenu paysan et ils appauvrissent les paysans au fur et à mesure. Et c'est eux qui se font les plus gros bénéfices. Donc ça, c'est un aspect social.
Je reviens sur le mot de service. Ces gens qui se présentent en prestataires de service, en fait, sont juste des VRP de l'industrie, des pesticides, des machines,
oui,
etc.
Tout à fait. Il y a une présentation qui est « on va vous aider, on est là pour vous aider ». Non, on est là pour vous piquer du fric et vous rendre dépendant. Parce que les systèmes qu'ils mettent en place aussi, c'est ils vendent un service où la personne, une fois qu'elle a mordu à l'hameçon, elle va revenir et puis elle va être dépendante de ce service-là. Et une fois qu'elle a acheté le matériel, en fait, les pièces détachées, ça passe par le groupe qui a vendu le matériel, etc. Forcément, quoi. Ça enlève de l'autonomie aux paysans et aux paysannes qui sont sur les territoires. Alors, ce que ça fait également, c'est que ça enlève des emplois.
Ce que j'entends dans votre discours, mais ce qu'on entend ailleurs, les exploitants agricoles ne sont pas l'ennemi, ce ne sont pas les ordures de pollueurs, machin. Ce sont des victimes du système, peut-être même les premières victimes de ce système. Ce n'est pas un truc binaire, les méchants agris et les gentils écolos.
Non.
À RAFU, hein, résistance aux fermes-usines, comme ailleurs, on n'est pas dans l'agribashing et dans le fait de montrer du doigt les agris comme des assassins et des pollueurs, mais comme des victimes, comme tout le reste de la société.
Oui, donc ça, on fait très attention à ce discours-là. Même personnellement, on est en relation avec des paysans, des paysannes, on est impliqué d'une façon ou d'une autre, soit en consommateur, soit en producteur. Effectivement, impliqué et avec une conscience du fait que les paysans, les paysannes sur nos territoires sont précieux pour faire vivre un territoire. Parce que si les communes, dans certains secteurs, avec une population qui a diminué, on se dit « oh là là, il ne se passe plus grand-chose ici, il y a plein de maisons à vendre », c'est une campagne qui vit plus. Avant, il y avait tant de commerce, il y avait tant de choses. C'est aussi des conséquences d'un système agro-industriel qui a vidé les campagnes. Tout à l'heure, je parlais de captation des revenus. En fait, ces revenus-là, ils sont partis ailleurs. Il y avait des circuits commerciaux locaux qui faisaient fonctionner tout un tas de personnes localement sur les territoires. Et ça, l'agro-industrie a su créer d'autres dépendances et à vider les campagnes de ces paysans, de ces paysannes. Et ce qui est frappant, c'est que la politique de la FNSEA, par exemple, c'est le seul syndicat, j'en connais pas d'autres dans d'autres domaines, qui milite et dont les propositions visent à diminuer le nombre de leurs adhérents. Enfin, c'est assez hallucinant de voir que la politique de la FNSEA conduit à réduire le nombre d'agriculteurs et d'agricultrices. À travers ça, on voit la contradiction, toute la contradiction de la politique de la FNSEA qui ne représente pas les volontés des agriculteurs et des agricultrices en France.
C'est un objectif qui est clairement affiché. La FNSEA vise à la réduction de la population agricole. Et l'objectif, ce serait quelques grosses fermes-usines qui contrôleraient toutes les terres.
Des grands groupes industriels qui contrôleraient l'ensemble des terres. Et avec, même dans le modèle proposé, une ubérisation, je dirais, du métier d'agriculteur, d'agricultrice. Déjà, on le voit dans l'élevage industriel. Je prends l'exemple de l'élevage de volailles. Si vous prenez un élevage Sanders, c'est une des filiales du groupe Avril. Avril, c'est une des propriétés de Rousseau, qui est le président de la FNSEA. Le système Sanders d'un élevage, il propose de passer un contrat où l'agriculteur n'est plus propriétaire de la volaille qui rentre dans son poulailler. Il n'est plus propriétaire des médicaments, parce qu'ils sont dopés, la volaille est dopée dans ce type de poulailler. Il ne reçoit que des injonctions. Faites ceci, faites cela, le lot de poussins, vous allez le recevoir à telle date. Il ne maîtrise pas ce calendrier-là, ce n'est pas lui qui le maîtrise, c'est le groupe. Il ne maîtrise pas les différents traitements, il ne maîtrise pas la sortie des poulets quand ils sont adultes et qui vont aller à l'abattoir. Ce n'est pas lui qui décide de ces dates-là, c'est le groupe qui le décide à sa place. Donc il a perdu tout le pouvoir de décision, il n'est qu'un exécutant qui a des responsabilités parce qu'il est propriétaire du bâtiment et qui doit rembourser un prêt auprès du Crédit Agricole ou d'autres banques. Il est complètement dépendant d'un calendrier qui n'est pas le sien, d'une qualité des volailles qui rentrent dans son poulailler. Ce n'est pas lui qui a choisi la qualité. Si c'est un lot de poussins en bonne santé ou en mauvaise santé, ce n'est pas lui qui le décide. Et si jamais il proteste contre le groupe avec lequel il a signé un contrat, on va lui mettre un lot de poussins qui n'est pas en bonne santé. Il va avoir de la mortalité, ça sera à lui de gérer. Et en fonction de ce qui va sortir, il va avoir un revenu diminué. Et ça, on l'a vu, c'est un mode de répression de la part du groupe. Si jamais il y a une parole qui ne va pas dans le sens du groupe, qui s'exprime politiquement ou syndicalement et qui ne plaît pas au groupe, le groupe prend des mesures de rétorsion en espacant les lots de fourniture de poussins. Finalement, on n'a pas de poussins pour vous ces mois-ci. Et là, évidemment, il n'a plus de revenus.
L'ubérisation du métier d'exploitant agricole.
Oui, tout à fait. Il devient un exécutant.
Il ne maîtrise pas non plus à qui il vend sa production. Il y a une seule et unique coopérative, là je mets aussi pareil des guillemets, qui rachète la production. Et sous la coupe aussi de la grande distribution, en fait, il est complètement pieds et poings liés, prisonnier d'un système épouvantable.
Oui, tout à fait. Et ce n'est pas sa production. C'est ce qui est dans son poulailler ne lui appartient pas. C'est le groupe Sanders qui reste le propriétaire et qui, lui, se fait les marges et pilote, tire les ficelles. C'est pour ça que nous, on a fait quelques illustrations où on montre un pantin avec Sanders qui tire les ficelles et c'est l'agriculteur qui fait les gestes. Mais en fait, ce n'est pas l'agriculteur, c'est les ficelles du groupe Sanders qui lui disent « fais ceci, fais cela ». C'est le système souhaité par l'agro-industrie et on le voit dans l'évolution des propositions quand on entend parler d'intelligence artificielle qui interviendrait sur les fermes. Là, il y a des systèmes qui sont proposés aux agriculteurs et agricultrices où le pilotage de leur ferme leur est retiré au profit d'une intelligence artificielle qui, elle, dépend d'un groupe industriel. Il devient complètement exécutant d'un système qui est piloté de l'extérieur. Et petit à petit, on voit la possibilité de groupes industriels d'acquérir des terres. Et ça devient encore plus dangereux, c'est-à-dire que les terres pourraient être acquises par des groupes industriels et les groupes industriels ne feraient plus appel à des agriculteurs, agricultrices, mais à des ouvriers, ouvrières agricoles.
Enfin, c'est une exploitation telle que j'ai presque envie de parler d'esclavage moderne.
Oui, c'est ça. Le gros avantage pour l'agro-industrie, c'est qu'ils ne sont pas responsables. Si jamais il y a une faillite, ils ne sont pas responsables. L'investissement, c'est l'agriculteur, l'agricultrice qui a fait l'investissement auprès d'un établissement bancaire. S'il tombe, ça n'a aucune répercussion sur le système agro-industriel qui est derrière et qui l'a piloté.
Les agriculteurs et agricultrices, en tout cas exploitantes agricoles qui se plient à ce système, parce que tradition familiale, parce que le regard du voisin, parce que le poids de la FNSEA, parce qu'endetté auprès d'une banque, etc. Donc pris pieds et poings liés, même en se pliant à cet esclavage, il y a des gens, plus ils travaillent, moins ils gagnent d'argent. Même en se soumettant, c'est même pas la garantie d'une survie.
Non, effectivement. On a vu des dossiers, nous, dans lesquels l'argumentation de l'agrandissement de l'élevage, puisqu'on voit des dossiers à résistance aux fermes-usines, on voit des dossiers qui proposent des agrandissements d'élevage de porcs, agrandissements d'élevage de volailles, etc. On voit qu'il y a une argumentation sur laquelle la proposition, c'est le maintien de l'emploi. Le deal, c'est on agrandit l'élevage et on maintient l'emploi. Si on garde l'élevage tel qu'il est, le revenu baisse. Et pour maintenir le niveau de revenu, on est obligé d'augmenter la production. C'est une fuite en avant, voulue par l'agro-industrie aussi, parce que si moi je ne le fais pas, mon voisin va le faire. Enfin, il y a une mise en concurrence entre agriculteurs et agricultrices par le bas. C'est-à-dire que le revenu baisse, puisque augmenter la production, c'est faire baisser les prix dans le marché, au bénéfice des supermarchés, des systèmes de vente qui, eux, sont bien contents de vendre le plus bas possible. Et ça se fait au détriment des agriculteurs et des agricultrices qui se retrouvent piégés. Alors, dans ces systèmes-là, il y a aussi des questions d'image. Tout un travail qui est fait par les groupes industriels pour valoriser le métier d'agriculteur avec une idée de sacrifice, de mission pour nourrir le monde, que survaloriser. Ah, les agriculteurs, les agricultrices, ils sont différents parce qu'ils se lèvent de bonne heure et ils ont une mission et ils souffrent. Mais c'est normal parce qu'ils ont une mission qu'on leur a confiée et ils doivent être fiers de ça, quoi. Et ce discours-là, il est aliénant en réalité. Il touche à la fois à la fierté, mais en même temps, il produit des souffrances parce qu'il produit des personnes qui sont en détresse à certains moments et avec, on en parlait tout à l'heure, des taux de suicide parce que c'est impossible à tenir. Cette mission, qu'elle soit filiale dans la famille ou par rapport au voisinage, etc., cette masse de travail, de responsabilité, il y a un moment, elle est impossible à tenir. C'est une mise en danger de la vie d'autrui, de la vie des paysans, des paysannes, au travers de ce type de discours, quoi.
Soit rester petite, c'est pourquoi elle s'obstine à rester sauvage. Sans trop de techniques, devenir grande avec les phytos comme mentor, c'est éclater la vie, même celle de ceux qui ne font pas de tort. À l'époque où grande fermait tes gamines, on sortait de la guerre, fallait sortir de la famine. Maintenant la misère est entrée dans nos terres, étape éclate les vertes terres dans Mortal Désert. Évidemment, il faut quand même de l'argent pour faire ses preuves chez les grands. Alors on trouve des clients dans des assos, plus question de rester solo, plus de journées d'enfer. Petite ferme des trêves, je ne crois pas que c'était volontaire. Les anciens, c'est certain, indirectement ont montré qu'en chier c'est bien. Demain, petite ferme et de fermeture pour préparer les fêtes avec sa progéniture. Petite ferme va enchanter le monde des fous. Elle va pousser un peu partout près de chez vous. Petite ferme va secouer les grosses et t'inquiète, tu verras, elle nourrira tes gosses. Petite ferme.
Est-il possible, particulièrement en Bretagne, de faire autrement, cultiver autrement, de se lancer en bio, comme on dit, de s'affranchir des dépendances vis-à-vis des machines-outils, des pesticides, de la coopérative, de la grande distribution? Romane, tu as l'intention de te lancer là-dedans?
Oui, absolument. Oui, c'est beaucoup plus compliqué de s'installer, mais ce n'est pas du tout impossible. On a un vrai travail à faire et il y a plein d'organisations qui le font pour recréer des filières locales, recréer des structures d'entraide et des structures collectives. Je pense au CIVAM, je pense à la CIAP qui est une coopérative d'installation à l'agriculture paysanne. Il y a, je pense à Terre de Liens, il y a tout plein de structures qui vont nous permettre de reprendre des terres à l'agro-industrie pour pouvoir installer des paysans et des paysannes qui ont envie de produire de manière différente. Et après, il y a aussi des filières qu'il va falloir remonter avec moins d'intermédiaires, des intermédiaires qui vont vendre de manière plus locale. C'est un combat aujourd'hui de vouloir s'installer, mais la réalité, c'est qu'il y a 50% des agriculteurs qui partent à la retraite dans les 5 ou 6 prochaines années. Donc en fait, il y a un certain nombre de terres qui vont devenir disponibles et il va falloir répondre à l'appel de l'atelier paysan qui dit qu'il faut installer 1 million de paysans et de paysannes, reprendre la terre au sens très physique et matériel du sol. Il va falloir réfléchir à des nouveaux systèmes de production alimentaire, beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus sociaux. Je pense à la sécurité sociale de l'alimentation. On a le droit d'avoir une alimentation saine. Tous les gens précaires qui ont recours à l'aide alimentaire et qui mangent des produits, c'est souvent des produits de merde chimique que les supermarchés jettent. En fait, c'est pas possible. On peut pas décider collectivement de nourrir des gens précaires avec les détritus de ce qu'on consomme pas. L'alimentation, c'est un droit. Il doit être accessible à tous et à toutes. Et donc, la sécurité sociale de l'alimentation, l'idée, c'est que ça fonctionne un peu comme la sécurité sociale en niveau de la santé. Un chèque tous les mois de 150 € de manière universelle pour bénéficier, pour pouvoir les consommer des produits qu'on aura démocratiquement décidé de vouloir consommer avec cet argent-là. Et donc l'idée, c'est de créer des caisses de sécurité sociale de l'alimentation, éventuellement d'avoir des producteurs et des productrices qui dépendent de ces caisses et qui produisent pour un territoire. Et de nouveau, c'est recréer des liens sociaux sur un territoire, recréer des liens entre les habitants, les habitantes et les gens qui produisent. L'idée de renourrir le territoire, de répondre aux besoins de son territoire et donc se réancrer vraiment dans un système de production alimentaire qui est socialisé, qui est territorialisé, qui est démocratique. Et donc s'installer va être un combat. Reprendre la terre à l'agro-industrie va aussi être un combat. Complètement compatible avec notre lutte contre l'agro-industrie et contre l'agro-business. Aujourd'hui, il y a des projets de fermes usines qui arrivent constamment sur nos territoires et avec la loi du plomb encore plus. Et donc nous, on a décidé de lutter contre ça, mais on a décidé aussi de lutter pour la paysannerie et pour l'installation et la facilitation de l'installation de paysans et de paysannes. Et on est beaucoup à vouloir s'installer et à être en formation pour le faire.
Désormais debout, bien aux quatre vents. Sa réputation n'est maintenant plus à faire, tu comprends. Mais tu vois, ça n'est pas assez. Montrer que c'est possible, ça n'apporte pas de respect. Elle sait trop de quoi demain sera fait. Si elle reste seule dans son coin sans se mobiliser, demain crèveront les paysans de la planète. Elle ne peut ignorer ceux qui croulent sous les dettes. Et son combat la mène un peu partout en France. Elle capte la colère, elle capte la souffrance. Petite ferme a choisi de se battre contre les méga bassines et le béton qui ne cesse de croître. Petite ferme.
Alors on a beaucoup parlé d'un prétendu syndicat agricole majoritaire qui est la FNSEA. Tu as mentionné aussi à l'instant un autre syndicat qui s'appelle la Coordination Rurale, syndicat agricole qui ne cache pas son affiliation au Front National. Et puis il y a aussi cet autre syndicat qui me semble très intelligent et qui est très vertueux, qui est la Confédération Paysanne. Vous en êtes proche ?
Oui, absolument. Il y a des membres de la Confédération Paysanne qui font partie de Bretagne contre les fermes-usines. À chaque fois qu'on fait des choses avec RAFU, on est en contact avec eux, on défend. Alors chacun dans son arène, puisqu'ils sont vraiment sur la défense des droits des travailleurs et des travailleuses, et que nous, on est plutôt là sur la lutte contre les fermes-usines. Mais en fait, on milite dans un même écosystème, on va dans le même sens. Donc on travaille main dans la main avec elles et avec eux.
L'agro-industrie fait la com, la malbouffe à l'époque existait déjà. Avoir de tout, tout le temps, la tyrannie du prix bas. Les coups de pub qui font de nous des consommateurs. Faux catalogue du bonheur. Mais en parler sans arrêt, ça devient un récit, une fable. Ça s'imprime dans la rétine comme avenir désirable. Et si petite ferme veut faire parler d'elle, doit-elle user des mêmes codes au risque de brûler ses ailes? Merde, dans le passé, ces fermes étaient des milliers. On s'en sortait très bien sans les supermarchés. Et je ne crois pas que nous soyons plus stupides qu'avant. Juste surexposés au confort, au putain d'écran. Pour la tech, le fric vient de nos addictions. Pour les paysans, il vient du chou, des diaux et du reblochon. Et pour être sûr que tout le monde s'en procure, petite ferme assure, broc à la ceinture.
On sait ce que tu es quand on voit ce que tu dégustes. Petite ferme le sait et garde l'envie d'être juste. Elle sait le bio c'est chaud quand le 12 t'es déjà sous zéro. Et les iPhones sont des marqueurs sociaux plus sexy que des poireaux. Alors sache que petite ferme n'est pas que contestataire. Elle invente, elle innove et elle défend les terres. Soucieuse du sort de nos frères, elle propose le plan de la sécurité alimentaire pendant que le système survit sous perfusion. Tu sais, ça c'est juste la question du choix d'où sont fléchés les bifetons. Ça fait 10 000 ans qu'elle nourrit nos sœurs et encore petite ferme va remplir vos corps et vos cœurs. Petite ferme va enchanter le monde des fous. Elle va pousser un peu partout près de chez vous. Petite ferme va secouer les grosses et t'inquiète, tu verras, elle nourrira tes gosses. Petite ferme.
Petite ferme, quand des paysannes et des paysans de la Confédération Paysanne chantent combat, pratiques vertueuses et idéaux. Avant de retrouver Romane et François de Résistance aux fermes-usines, collectif qui ne se contente pas de dénoncer des catastrophes engendrées par l'agro-industrie, le RAFU propose aussi des modèles d'agriculture vertueuse et des actions.
On propose un autre système de production alimentaire. On va bientôt porter plainte contre l'État qui nuit à la santé des populations alors qu'il a un rôle de protection de la population. Donc on propose un autre système, mais cette phase de proposition par un autre système, elle passe par une phase de dire stop au système actuel. Et on prône des nouveaux modèles et on essaye de libérer des terres en faisant en sorte que les fermes-usines ne se font pas. Donc en fait, on est dans la proposition d'un autre système alimentaire. Et on n'est pas tout seul à le faire. La coalition nationale des résistances aux fermes-usines, aujourd'hui, elle travaille aussi avec une coalition européenne de collectifs qui luttent contre des fermes-usines partout en Europe. Donc on n'est pas juste une petite voix isolée. Partout en Europe, il y a des riverains et des riveraines de territoires ruraux qui décident qu'ils ne veulent plus vivre dans un environnement qui est malsain pour leur santé et malsain pour les agriculteurs et malsain pour le bien-être animal. Aujourd'hui, ce système-là, vraiment collectivement, partout en Europe et je pense aussi partout dans le monde, nous n'en voulons plus. Et donc, on s'y oppose pour proposer autre chose.
plainte contre l'État, pour quel motif? Empoisonnement de la population?
L'idée d'un recours contre l'État pour carence fautive, hein, j'utilise les termes adéquats, c'est effectivement une plainte contre l'État qui ne fait pas son travail de protection des populations, qui ne fait pas son travail, entre autres, de planification de l'élevage industriel, par exemple, des installations industrielles d'élevage. Ce travail de planification, il n'a pas été fait depuis des décennies, ce qui produit des concentrations assez importantes dans certaines régions et des répercussions sur l'environnement, sur l'aspect social. L'État n'a pas respecté ses propres lois. Il a fait en sorte d'ignorer les effets cumulés. Et les effets cumulés, ils sont là aujourd'hui en Bretagne. On parlait des algues vertes et c'est parmi une des répercussions les plus visibles. Aujourd'hui, quand on est en littoral breton, on voit ces algues vertes, c'est une répercussion très visible. Il y en a bien d'autres, des répercussions qui ne sont pas aussi visibles, de la concentration des élevages industriels et de la concentration en nitrate des masses d'eau.
C'est-à-dire, je peux en témoigner, hein, je suis allé en baie de Saint-Brieuc et je suis promené autour de l'estuaire de cette rivière, le Gouessant, et il y a cette couleur complètement surréaliste, vert phosphorescent, pâle, qui recouvre tous les rochers. Et tout autour, il y a une zone où il est interdit de pénétrer par moment, avec un panneau tous les deux mètres, et sur chaque panneau, un danger, ne franchissez pas cette zone, danger de mort. Ouais. Donc à cause des émanations toxiques des algues vertes qui empoisonnent.
Voilà. Gènes sulfurés qui en émanent. Ça, c'est la partie visible, je dirais. Mais il y a bien d'autres parties qui ne sont pas visibles pour être assez proches de ce sujet-là. Par exemple, les plans d'eau en Bretagne intérieure, les plans d'eau douce, les lacs, les étangs, etc., sont victimes également d'un apport d'excès de nutriments. Ce qui nourrit les algues vertes, c'est l'azote et le phosphore qui viennent directement des épandages d'excréments des élevages industriels. La preuve a été établie maintenant. Dans les plans d'eau intérieurs, les cours d'eau également, enfin surtout les plans d'eau intérieurs, on a également un problème. Pas les algues vertes, c'est les algues bleues. Les algues bleues, c'est les cyanobactéries, qui sont des cyanotoxines, qui dégagent des cyanotoxiques, qui conduisent à des fermetures d'activités nautiques. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de faire de la voile sur des plans d'eau, du canoë, de nager encore moins, de la pêche non plus, parce que les poissons ne sont plus bons à la consommation, etc. Et en même temps, on a l'Agence régionale de santé qui garde la classification des plans d'eau comme étant excellente qualité. Ce qui est totalement aberrant, parce que l'excellente qualité qualifiée par l'ARS dépend de critères chimiques qui sont analysés, qui ne comprennent pas les cyanobactéries. Donc on a à la fois les cyanobactéries qui conduisent à des arrêtés municipaux d'interdiction de baignade d'activité nautique, et de l'autre côté, l'ARS qui qualifie avec un joli panneau « eau de qualité excellente ». Il y a un moment où on va se retrouver, les algues vertes, on a fait le boulot et maintenant, ça y est, l'État, l'ARS arrive à mettre des choses en place. Sur les plans d'eau intérieurs, ce n'est pas encore le cas, mais on y travaille pour que les excès de nutriments qui arrivent sur ces plans d'eau aussi, qu'on prenne conscience qu'il y a des répercussions très directes sur la qualité de l'eau.
Romain mentionnait aussi tout à l'heure des staphylocoques dorés.
Oui, voilà, c'est ça. Mais en parlant de l'eau, je dirais que la partie peut-être la moins visible aujourd'hui, c'est la question de la ressource en eau pour les années qui viennent, puisqu'on a une évolution du climat, que ce soit en Bretagne ou ailleurs en France, avec globalement des perspectives où les précipitations vont donner à peu près la même quantité d'eau qui tombe sur les différents territoires, mais par contre avec une évaporation, une évapotranspiration beaucoup plus forte, ce qui réduit en réalité la ressource en eau pour les 20 ans qui viennent, les 20-25 ans qui viennent. La ressource en eau va diminuer et en même temps, la demande en consommation, vu les températures qui vont augmenter, va être supérieure. Donc on va avoir un croisement de courbes dans les 25 ans qui viennent, un croisement de courbes qui fait que la disponibilité de la ressource diminuant et la demande augmentant, on va avoir des situations de crise assez énormes dans les différents territoires en France. si on continue avec le modèle tel qu'il est, le modèle agro-industriel, entre autres, de production agricole dominant. C'est France Stratégie qui a élaboré une étude sur ces sujets-là, en confrontant, c'est tout récent, c'est du mois de juin 2025, en confrontant les consommations par bassin versant à la ressource disponible dans les 25 ans qui viennent. Ils ont modélisé trois scénarios. Un scénario de « on continue le fonctionnement actuel » et là, France Stratégie dit clairement « on va dans le rouge pour l'ensemble des bassins versants en France métropolitaine ». On a un scénario « application des politiques publiques actuelles » et là aussi, on va dans le rouge parce qu'on sait que les politiques publiques vont favoriser, on le voit, hein, les méga-bassines, etc. Enfin, Et donc, on voit que la continuation des politiques publiques ne résout pas la question. Et France Stratégie, c'est le haut commissariat à la stratégie et au plan qui le signe, ce document, dit, dans les 25 ans, si on continue avec l'application des politiques publiques actuelles, on va dans le rouge pour l'ensemble des bassins versants en France. C'est un petit peu mieux que le scénario tendanciel, mais c'est encore pas du tout la bonne direction. Et France Stratégie travaille sur un modèle de rupture. C'est la première fois qu'on entend le mot rupture de la part d'un établissement dépendant du gouvernement, France Stratégie. Et dans le scénario rupture, il préconise une baisse de la consommation de viande, de ne pas recréer des méga-bassines supplémentaires, de diminuer la part du nucléaire qui, lui, fait des surconsommations d'eau par nécessité de refroidissement des réacteurs. Voilà, il fait tout un schéma de société qui, lui, peut tenir à l'équation intenable jusqu'à présent de la ressource en eau entre le besoin et la disponibilité de la ressource en eau en France dans les 25 ans qui viennent. Donc on a, en fait, un appui, un allié quelque part qui nous rejoint, c'est France Stratégie, le haut commissariat de la stratégie et du plan, qui dit la même chose que ce qu'on dit depuis des années.
Qui est une organisation étatique.
Auprès du Premier ministre, quand même. C'est hallucinant de voir ces documents-là, ces études avec toutes les méthodologies expliquées, vraiment quelque chose de très approfondi comme étude, qui conclut que, le système agro-industriel, entre autres, va dans le mur. Et c'est ce qu'on dit depuis des années, c'est qu'on est dans une impasse. Et que cette impasse, on va taper dans le mur, parce que c'est pas tenable. Donc on va vers une crise forte dans la continuité des politiques publiques aujourd'hui. Donc la loi du plomb, elle va dans ce sens-là. Elle accélère les possibilités d'installation d'élevage en remontant les seuils, en invisibilisant pour la population ce qui se fait, en empêchant la population de se saisir des décisions sur le territoire où les populations habitent. La loi du plomb le fait et malheureusement, le Conseil constitutionnel n'a pas sanctionné cet aspect-là.
Au moment où on se parle, on est donc le vendredi 8 août 2025 et hier à 18h, effectivement, le Conseil constitutionnel a rendu son délibéré sur la loi du plomb et c'était un peu ce qu'on craignait, c'est-à-dire, 2 millions de signatures sur une pétition, probablement pas signée que par des éco-terroristes, mais par des citoyens, des citoyennes qui ont bien compris en fait que l'acétamipride, c'est pas bon pour la santé et qui n'avaient pas envie de se retrouver avec de la maladie dans leur assiette. Le pouvoir a lâché sur l'acétamipride, donc ce néonicotinoïde tueur d'abeilles, parce qu'on a bien compris que ça avait alerté les consommatrices. Mais du coup, on concerne les fermes-usines, les méga-bassines, le contrôle de l'Office national de la biodiversité, la mise sous tutelle d'instances scientifiques par le pouvoir politique. Voilà, on vous fait sauter l'acétamipride et regarde tout le reste.
On a aussi, dans ce que tu as cité, le fait que les populations n'ont plus accès de la même façon au débat public. Le débat public, normalement, il doit avoir lieu. Les décisions d'aménagement du territoire doivent normalement appartenir à l'ensemble de la population. Et aujourd'hui, les pouvoirs de décision de la population lui sont retirés au fur et à mesure. Ce que dit la loi du plomb sur les enquêtes publiques, c'est que antérieurement à la loi du plomb, il y avait une réunion publique au début de l'enquête publique et une réunion publique à la fin de l'enquête publique, ce qui permettait des débats
au moins un échange entre la population, le porteur de projet, le commissaire, la commissaire enquêtrice, etc. Aujourd'hui, l'initiative d'une réunion publique, elle appartient au porteur de projet. Évidemment, lui, il va avoir son intérêt. Son intérêt, il est financier. Son intérêt, c'est de faire passer le projet. Donc, il va faire une réunion publique. Si ça l'intéresse, si ça va dans son sens, il fera la réunion publique. Si ça ne va pas dans son sens, s'il sent le vent tourner, il se dit, bah, moi, je ne veux pas faire de réunion publique. Tant pis, salut. Je continue mon projet, quoi. Donc, on enlève petit à petit des possibilités d'intervenir sur les choix qui concernent l'ensemble de la population. Les délais de recours, ils étaient de 4 mois. On nous les diminue à 2 mois pour accélérer l'installation des fermes-usines, des élevages, etc. Ces délais de recours, ils se retrouvent très courts. Donc, ce qui veut dire qu'on a intérêt à aller très vite. Déjà que le fait de créer une association après l'arrêté d'ouverture d'enquête publique, déjà rend l'association inapte à déposer un recours. C'est-à-dire que vous ignorez tout de ce qu'il y a comme projet autour de chez vous. Un jour, il y a un affichage qui dit « il y a une enquête publique sur un projet ». Vous vous dites « ah, ça ne me plaît pas du tout, on est plusieurs à penser la même chose, on va faire une association ». Ben, en fait, c'est trop tard. C'est-à-dire que vous auriez dû faire l'association avant de savoir qu'il y avait le projet. Voilà, la loi est faite comme ça. Déjà, on voit les freins qui sont posés à la participation du public aux décisions qui concernent la population. Donc là, la loi du plomb ne fait que renforcer ces éléments-là, quoi.
Du coup, avec Rafu, on va appeler à se mobiliser contre la loi du plomb. Fin septembre, on va organiser une journée nationale d'action décentralisée partout en France. Si vous avez signé cette pétition contre la loi du plomb et que vraiment, pour vous, c'est pas du tout OK que cette loi passe, que ce gouvernement continue de nous empoisonner, que ces élevages continuent de s'agrandir, on vous invite à vous mobiliser avec nous. Vous pouvez trouver toutes les infos sur le site Résistance aux fermes usines, tout ça au pluriel. On fera passer un appel à mobilisation et on vous invite à être actifs et actives dans les mouvements sociaux de septembre, parce que c'est pas possible ce déni démocratique, on n'en peut plus, on court vers notre perte et c'est pas possible.
C'est dangereux. Je repense à cette journaliste qui a eu le toupet d'enquêter sur les fermes-usines et qui s'est retrouvée avec sa voiture sabotée.
Est-ce que c'est dangereux de militer contre les fermes-usines?
Ouais.
Eh bien, militer contre les fermes-usines, c'est aller en manif et avoir des tracteurs avec écrit « un bon écolo est un écolo mort ». Enfin, je pense à l'Office français de la biodiversité qui s'est pris des bombes et qui s'est fait détruire ses locaux par la coordination rurale. En fait, ce n'est pas militer contre la ferme-usine qui est dangereux aujourd'hui, c'est militer et agir pour le bien commun qui devient dangereux parce qu'en face de nous, il y a des gens qui défendent du profit et qui n'ont aucune limite et qui fonctionnent comme une mafia. Donc oui, c'est dangereux. Des fois, ça fait peur, en fait, de vouloir défendre ce bien commun. Mais je pense que on est vraiment attaché à la production d'un monde démocratique, social, alimentaire, correct, où en fait les gens sont justement rémunérés. Un monde anticapitaliste, antipatriarcal, alors c'est peut-être des mots assez forts, mais c'est quand même ça la logique pour nous. Et se rattacher à ces valeurs-là et à cette éthique-là et le faire collectivement, ça permet d'affronter ces peurs-là et de se dire que de toute façon, on n'a rien à se reprocher parce qu'on se bat pour un monde meilleur. On se bat pour un monde qui n'empoisonne pas les populations pour faire de l'argent. On se bat pour un monde où les gens ils peuvent vivre de leur travail, où les agriculteurs ne se suicident pas parce que les conditions de travail sont aussi terribles. Et pour moi, ça, c'est vraiment juste la base. On se bat pour pouvoir adapter l'agriculture au réchauffement climatique. L'année dernière, l'été dernier, il y a eu 40% des moissons de blé qui ont été détruites par la pluie à cause du réchauffement climatique. Il y a des troupeaux qui sont morts à cause d'insectes liés au réchauffement climatique. Je pense là à la fièvre catarrhale ovine, par exemple. Ça a des réelles conséquences sur la vie des agriculteurs. Et donc nous, notre combat, il est juste, il est sain, il est éthique et il est positif. Donc oui, des fois, on doit s'engager dans des rapports de force parce qu'en face de nous, le pouvoir, il est énorme. Mais on n'a pas tort et on est mû par des valeurs de bien commun. Et donc, on affronte la peur collectivement. On est un camp fort, ensemble, uni. Et on est fort et radicaux et déter.
Viens les goûter. Roi d'Espagne, légumes bio, bien sûr c'est du quartier.
Bien sûr.
L'oseille on calcule, si tu Prado, on est pro.
Ouais.
La confiance, maraîcher, tu as trop la confiance.
Ouais.
Les masses goûtées étaient quand je mettais dans mon terreau dispense. Tu veux nous faire la guerre, je vais t'écraser. Ça prend tes radis, ça prend tes céleri, ça prend ta teuté. Le téléphone bip, faut tout préparer, oh.
c'est marché mémé. Allez. Ça m'a rassé bébé. Tant qu'il ou quoi. Gramme dans la remorque, je fais 0 à 20 en 1h03. Tractorisé, y'a assez d'essence. On se croit c'est sûr, tu es devenu fermier.
J'ai passé la bague à Chiqui Poule, 2 ans après je l'ai liquidé. Y'a des petits canards, un yin chat haché des équidés. Que des phénomènes, je vais te les faire kiffer. On fout le feu nous-mêmes.
Tu disais en début d'émission que tu envisageais de t'installer en tant que paysanne. As-tu une idée de à quoi pourrait ressembler ton activité ?
Moi, la ferme que j'envisage de créer avec mes partenaires, c'est une ferme en collectif qui produit de la viande, du fromage, des légumineuses, des céréales, qui est un système de prix de soutien et de prix solidaire pour que ces produits-là soient accessibles à tous et à toutes. Une ferme ancrée sur son territoire, un lieu social, d'accueil, d'activité culturelle. Ça va s'appeler la commune ferme, parce que c'est une ferme en commun et c'est une ferme pour tous et pour toutes. Et c'est aussi une ferme où on va se laisser du temps pour continuer à militer contre ce système de l'agrobusiness et de la mafia agro-industrielle. Moi, je ne peux pas vivre dans un monde où je laisse les politiques nous empoisonner.
Pour continuer à s'informer, RAFU, résistance aux fermes usines, vous avez un site internet ?
On a un site internet, on peut s'inscrire sur une liste de diffusion de mails avec des nouvelles régulières. S'il y a des gens qui voient un projet de ferme usine se créer à côté de chez eux, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, notre coalition elle est aussi là pour faire de l'entraide entre collectifs, pour se partager des compétences, des expériences, et on est là pour accompagner tout ça. Et ensemble, on va y arriver. Aujourd'hui, le monde, il a radicalement changé par rapport aux années 50 où il fallait nourrir le monde et où ça a mené à toute cette surconcentration d'élevage et c'est pour ça qu'il y a toutes ces conséquences néfastes. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle ère où il faut prendre en compte les limites planétaires, prendre en compte le revenu des agriculteurs et ensemble, on construit ce monde-là, un monde qui articule des conditions décentes de travail pour les agriculteurs et les agricultrices et le respect des limites planétaires parce que juste, on n'a pas le choix de faire autrement.
Ce que je pourrais rajouter comme élément de conclusion, c'est l'aspect de la joie. C'est-à-dire que notre lutte, que ce soit résistance aux fermes-usines ou Bretagne contre les fermes-usines, dans nos différents mouvements, on a un élan positif, un élan de solidarité, de lien humain qui est très fort, qui nous soude et qui nous donne l'envie d'avancer ensemble avec une volonté aussi de le faire dans quelque chose de positif, même si cette situation, on la connaît dramatique, tragique sur certains côtés, on ne veut pas se laisser enfermer dans des postures d'opposants, de défaitistes, de ceux qui ont perdu la bataille. Non, nous, on est au contraire orienté vers quelque chose de positif et on sait qu'on va gagner à terme. On ne sait pas par où on va passer, mais on fait appel à la fois à ce qu'on appelle la joie militante et à l'imagination, parce qu'on sera toujours là où on ne nous attend pas et on va bousculer le système, ça c'est sûr.
Ça se trouve même des fois, vous faites la fête.
Mais oui, bien sûr, et on fait... Ah ben oui, je ne l'ai pas dit, mais ça fait partie, bien sûr, on fait la fête.
Merci à vous pour ce moment passé avec vous et à bientôt.
À bientôt.
À bientôt, à bientôt.
Et voilà les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de RAFU, Résistance aux fermes-usines. Cette conversation a été enregistrée en août 2025 au génial festival Les Résistantes, qu'on remercie. Vous pouvez télécharger cette émission et plein d'autres sur notre site, polemixetlavoixoff.com, avant qu'on se retrouve très bientôt sur votre radio encore libre, préférée, mais pour combien de temps ? Ce n'est qu'un combat, continuons le début, salut.
Sache que petite ferme n'est pas que contestataire. Elle invente, elle innove et elle défend les terres. Soucieuse du sort de nos frères, elle propose le plan de la sécurité alimentaire pendant que le système survit sous perfusion. Tu sais, ça c'est juste la question du choix d'où sont fléchés les bifetons. Ça fait 10 000 ans qu'elle nourrit nos sœurs et encore petite ferme va remplir vos corps et vos cœurs. Petite ferme va enchanter le monde des fous. Elle va pousser un peu partout près de chez vous. Petite ferme va secouer les grosses et t'inquiète, tu verras, elle nourrira tes gosses. Petite ferme.